Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site lesherosdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dan El Kaïm. Dan, salut.
Salut Alex.
Écoute Dan, je suis content que tu reviennes dans le podcast. Tu étais déjà venu il y a quelques temps. Sur le thème de la mafia Aircall, donc tu étais venu avec l'ancien collaborateur Aircall où vous avez tous lancé votre boîte. Exact. Et là, je te réinvite parce que votre actualité est hyper intéressante. Mais tu, avant de commencer, je vais te laisser te présenter et nous dire pourquoi c'est intéressant de te suivre sur le sujet de la vente.
Ouais. Bah écoute, ouais, très content de revenir aussi. Alors intéressant. En tout cas, ouais, on a des petites choses à raconter ces derniers temps. Je m'appelle Dan, je suis un des cofondateurs de Topo. Topo, on est une solution de sales enablement. On fait ce qu'on appelle une digital sales room. L'idée, c'est de proposer aux équipes commerciales un espace partagé entre un commercial et tous les acheteurs qui vont interagir sur un deal pour centraliser l'expérience d'achat, la rendre plus engageante, plus fluide et utiliser tout un tas d'outils pour justement engager l'acheteur tout au long du cycle de vente. Donc c'est un projet qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an et demi, justement, après avoir quitté Aircall. Effectivement, l'actualité, c'est que je te parle des États-Unis. On a eu la chance, le plaisir de partir à San Francisco pour quelques mois pour rejoindre un incubateur qui s'appelle Y Combinator. On rentrera un peu dans le détail, mais donc on est ici avec toute notre équipe pendant quelques mois pour s'imprégner de la culture américaine, pour lancer le produit ici, pour faire passer aussi une étape et puis pour prendre l'expertise que Y Combinator nous apporte avec le programme. Donc, ouais, très content de revenir, très content de partager ça avec toi.
Ouais, bah écoute, tu m'as déjà tendu la perche pour introduire le sujet. Aujourd'hui, on va parler du marché américain et des spécificités de ce marché, de comment vendre sur ce marché. Alors, tu es assez modeste parce que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas Y Combinator. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est exactement et quelles boîtes sont passées par Y Combinator?
Alors je suis modeste parce que c'est aussi dans l'état d'esprit chez YC de relativiser ce que ça veut dire d'être là. C'est absolument pas un accomplissement, mais au contraire, je te dis, on le voit comme une chance, comme une opportunité de passer un cap. Mais pour expliquer ce que c'est, Y Combinator, c'est un incubateur de start-up à San Francisco qui existe depuis de nombreuses années, qui est un modèle assez particulier, mais que je trouve exceptionnel, d'aller très tôt dans l'aventure des start-up, voire au commencement, financer le lancement de ce projet, financer les fondateurs pour travailler sur leur idée. Et le format, c'est donc un programme d'accompagnement pendant 3 mois, avec des partenaires qui sont des anciens entrepreneurs et pour la plupart des anciens entrepreneurs qui ont fait Y Combinator, en tout cas aujourd'hui, à travailler sur leurs idées, travailler sur le go-to-market, travailler sur le produit, avec un format assez inédit dans lequel vraiment on se met dans une bulle pour travailler certainement plus que jamais et vraiment mettre un certain niveau d'exigence dans le lancement de ta startup. Donc, oui, il y a effectivement des boîtes exceptionnelles qui sont passées par Y Combinator. La première génération de boîtes, c'est des entreprises comme Twitch, comme Airbnb, comme Dropbox. Plus récemment, et puis nous en plus, c'est ce qui nous parle mieux dans le software, des boîtes comme comme Rippling, comme Deal, qui font un peu partie de cette nouvelle génération. Et dans les boîtes françaises qui sont passées par Mon Combinator, alors il y en a quand même pas mal sur ces dernières années, les plus connus étant Algolia, Front, qui se sont lancés ici. Voilà, donc le format, c'est pendant 3 mois, on a cet accompagnement. À la fin de ces 3 mois, il y a un événement qu'ils appellent le Demo Day, qui est un petit peu un driver pour nous. On a une date et à ce moment-là, on va venir présenter notre boîte, ce qu'on a fait sur les 3 derniers mois et la vision qu'on en a devant tout notre batch, tous les partenaires de YC et aussi beaucoup d'investisseurs dans la Silicon Valley. Mais donc, c'est un moment, c'est une échéance qui est sympa à suivre comme North Star, en se disant, OK, il faut que j'ai 3 mois pour faire en sorte que, pour prendre ma boîte d'un point A et l'amener à un point B, et qu'il y ait une avancée significative. Donc ouais, super, super chanceux d'être là, de pouvoir vivre ça à la fois avec le programme YC. Donc il y a un accompagnement avec les partenaires de YC qui travaillent avec toi sur ta boîte, mais il y a aussi certains événements où participe à des talks d'entrepreneurs qui nous partagent leur expérience. Voilà, donc à l'heure où je te parle, ça fait 1 mois qu'on a commencé le programme. Peut-être que tu l'entends à ma voix ou à mes cernes, on travaille beaucoup. Mais on vit quelque chose d'exceptionnel et on est super chanceux de pouvoir le faire.
Oui, et puis pour donner peut-être un peu de plus de contenu sur Y Combinator, c'est notamment le patron de ChatGPT OpenAI, Sam Altman, qui était il n'y a pas si longtemps le directeur de Y Combinator.
Ouais.
Ça a été fondé par plusieurs personnes, mais par des gens comme Paul Graham. Et lors du fameux Demo Day, tu auras sans doute un peu d'enjeux et de pression à ce moment-là, mais c'est vrai que tu as, on va dire, les plus gros investisseurs de la Silicon Valley, là où des empires tech se construisent.
Ouais.
Donc, quand tu fais du software comme toi et que tu as une ambition, c'est quand même, on va dire, un peu la voie d'excellence. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez réussir, etc. Mais par contre, c'est une sacrée aventure entrepreneuriale. Et tu vas nous expliquer un peu les coulisses, mais c'est assez particulier. Vous avez décidé de partir avec toute l'équipe, de louer une maison à San Francisco où les loyers sont sans doute très élevés. Et de vivre l'aventure ensemble, en équipe, c'est quand même assez original.
Ouais, mais YC encourage à faire ce choix. Okay. Alors, il y a évidemment des raisons pratiques d'être aligné sur le fuseau horaire. Quand tu es à San Francisco, tu es vraiment au bout de la time zone mondiale, donc c'est pas évident de travailler avec l'Europe.
Ouais.
La deuxième raison, elle est évidente, c'est une question de construction d'un noyau dur dans une équipe, notamment dans une boîte early stage comme nous, d'être capable de créer quelque chose en équipe, de vivre une expérience commune, et puis de partager ça aussi avec l'équipe, c'est-à-dire que rentrer chez YC, même si on sait bien que ce n'est pas un accomplissement, on est tous très fiers d'avoir la chance de pouvoir le faire, et donc ça aurait été aussi très égoïste de ne pas vouloir le partager. On a eu la chance aussi que tout le monde soit volontaire pour le poursuivre, tout le monde soit partant pour venir à San Francisco, et donc il fallait le faire dans les bonnes conditions. Donc ouais, on a loué une maison, un peu, tu vois, nous, enfin moi perso, j'ai toujours un peu fantasmé sur le social network, quand tu vois Mark Zuckerberg, les développeurs lancent Facebook dans une maison en Californie. Bon, alors,
il y a cette scène où ils vont ensemble
exact.
Développer Facebook. Ouais.
Exact. Alors, à notre humble échelle, on est en train de vivre quand même quelque chose qui peut s'apparenter à ça, tu vois, où le matin, très tôt, on a nos call sales, et après, quand tu vas te coucher un peu plus tard parce que tu te lèves le lendemain, il y a aussi les devs qui sont encore là en train de coder parce que le lendemain, on a un call important. Donc, tu vois, c'est super puissant comme énergie, et ça, on avait vraiment envie de le partager avec l'équipe. Et puis surtout, on se rend compte que en haussant le niveau d'exigence, en haussant le rythme, et en se laissant porté par l'énergie YC, par aussi la dynamique de batch. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est super puissant, tu vois. C'est-à-dire, tu fais YC en même temps que, en l'occurrence là, autour de 150 autres boîtes qui viennent du monde entier. Et donc, c'est absolument pas dans un esprit de compétition, mais au contraire, de partage et d'avoir des gens qui ont des expertises complètement différentes, qui vivent la même chose que toi en même temps. Et ça, c'est assez unique. C'est pour ça que c'est difficile de dire que YC est un investisseur dans ta boîte. C'est plutôt... C'est un peu tout. C'est une communauté, une expertise, un programme. Mais donc, ouais, on a fait ce choix. On est tous là pendant 3 mois, une petite dizaine de personnes à San Francisco. Et pour l'instant, on est super, super heureux de la manière dont ça se déroule et de ce qu'on est capable de délivrer en si peu de temps.
OK. Comment ça se passe? Donc, la première partie, on va avoir un peu les coulisses. Et la deuxième partie, je vais te poser des questions sur les spécificités du marché américain. Et on parlera à la fin de Sales Enablement. Mais comment ça se passe quand vous débarquez à San Francisco? J'imagine que tu as des choses que tu projettes qui sont peut-être un peu trop rêvées. Et puis d'autres choses que tu n'as pas prévues qui vont être top ou pas terribles. Comment ça se passe quand tu arrives? Tu loues ta maison, tu fais tes premières réunions avec Y Combinator. Qu'est-ce qui arrive d'intéressant ou de pas intéressant dans cette aventure
Ben, déjà, t'arrives avec le couteau entre les dents. En tout cas, nous, c'était le cas. Ouais. C'est toujours le cas. On se dit qu'on part pour cette aventure-là. Et tu vois, il y a une espèce de alors tu l'as quand t'es entrepreneur, quand t'es dans une boîte early stage, une envie de tout casser, mais là c'est décuplé. Tu sors de l'aéroport et tu prends un taxi pour aller à San Francisco et déjà tu sais que t'es au bon endroit, quoi. Les panneaux en France, on a l'habitude, je sais pas, que ce soit de la grande distribution, de la food, du e-commerce ou autre. Ici, c'est les boîtes de software sur les billboards, quoi. Donc, tu vois, même si on est dans cet écosystème depuis un moment, quand tu arrives à San Francisco, un peu naïvement, le petit Frenchie, tu as un peu les yeux grands ouverts en mode « Ok, je suis certainement au bon endroit pour le faire. » Donc ça, déjà, c'est assez puissant comme énergie qui se dégage. Et puis YC, il te laisse pas de sas de répit. Tu commences tout de suite. Il y a ce qu'ils appellent la Founders Retreat, qui est un petit séminaire dans lequel tu partages plein de choses avec les autres fondateurs de ta promo entre guillemets, où tu rencontres aussi tous les partenaires de YC. Et puis, au-delà du côté inspirationnel, qui est évidemment très, très puissant, mais surtout, ils te remettent les pieds sur terre en te partageant tous. Tu vois, tous les partenaires ont des parcours fabuleux, inspirants, mais ils vont aussi te raconter des choses. Tu vois, la plupart des trucs qui se disent dans les talks de Y Combinator ne sont pas enregistrés, ne sont pas filmés, quoi que ce soit, et ils demandent d'ailleurs de garder un petit peu cet aspect un peu de communauté, parce qu'ils te partagent aussi beaucoup leurs galères. À quel point est-ce que ça a été compliqué? À quel point ça a été des hauts et des bas? Et donc, sans forcément rentrer dans les détails, c'est particulièrement aussi inspirant de voir que des boîtes qui nous ont toujours fait rêver sont passées par des choses qu'on vit, nous aussi, à notre échelle. Donc, c'est assez puissant comme état d'esprit. C'est évidemment, et on en reparlera, les Américains sont excellents. Je trouve, en tout cas, moi, en arrivant ici, même en ayant déjà travaillé avec des Américains, mais là, en tout cas, c'est flagrant, excellent sur l'expression orale, sur la manière de se vendre. C'est assez, assez bateau, assez commun comme truc, mais là, pour le coup, je le vis vraiment. YC a ce truc-là de pas en faire des caisses, et au contraire, de te vacciner pour te dire que je sais pas, il n'y a eu qu'un pour cent du chemin qui a été fait. Okay. Et que voilà, quand tu as un talk avec avec Brian Chesky, qui est le fondateur d'Airbnb, qui vaut 100 milliards ou plus. Il te raconte que pendant les premières années, ils n'ont pas réussi à faire une vente, quoi. Et aujourd'hui, tout le monde connaît Airbnb, c'est une des boîtes les plus successful de ces 10 dernières années. Pour autant, ils ont sacrément trimé. Ouais, je trouve que c'est assez fort comme état d'esprit de te rassurer, entre guillemets, sur le fait, ou de te prévenir que ça va être des montagnes russes, et que la seule qualité, le seul pattern, s'il devait y en avoir un, parce que en l'occurrence ils mettent en avant qu'il n'y a pas de pattern, mais le seul pattern, c'est la résilience et le travail. Et ça, c'est clairement un truc qu'on est en train de vraiment de s'imprégner à fond.
Ok. Et donc, on est sur un podcast sur la vente. Est-ce que YC parle un peu de vente, ou en gros, c'est vraiment vous qui devez, de manière autonome, vous dire, allez, on est aux États-Unis, on démarche les Américains maintenant qu'on y est. YC, est-ce qu'ils font un accompagnement là-dessus, ou c'est plus, comme tu l'as dit, des talks d'inspiration pour s'inspirer, pour se motiver?
Non, ils te font un accompagnement. Okay. Ils t'aident. Ils te disent, ça reste toi le maître à bord, ça reste toi le boss de ta boîte. Nous, on te donne des conseils et des retours d'expérience. Cela dit, tu vois, YC a eu un rôle assez central dans la théorisation de l'esprit startup, du playbook startup, et tu parlais de Paul Graham qui a fait beaucoup d'essais, beaucoup de publications d'articles sur son avis, tu vois, des grands principes de YC, et en fait c'est juste très terre à terre, mais très ouais, c'est très concret, quoi. Tu dois faire quelque chose que les gens make something people want. Tu dois parler à tes utilisateurs. Tu dois t'assurer que c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment, ils ont vraiment besoin. Et pour ça, tu vois, il y a des patterns. À quel point est-ce que les gens sont prêts à payer tout de suite pour ça? Et s'ils sont pas prêts à payer pour ça, pour quelle raison c'est? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez mal? Est-ce que toutes ces choses-là? Et quand tu as des théories, va les vérifier tout de suite. Tu as une théorie, tu as une hypothèse, c'est cette direction dans laquelle tu vas aller. Tiens, très bien, cet après-midi, tu appelles 10 personnes et tu essayes de leur vendre exactement ce produit, même si tu ne l'as pas. Et s'il y a quelqu'un qui te dit, ouais, c'est cool, je suis prêt à payer pour ça, même si tu n'as pas encore ton produit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, tu vois. Mais donc, c'est très, très terre à terre. On ne rentre pas dans la technique de vente fine, mais justement, je pense que, tu vois, quand tu es. Donc, moi, j'ai fait de la vente dans mes précédentes expériences. Et quand tu es dans une scale-up post-product market fit, le sujet, ce n'est pas l'itération sur à qui tu dois vendre, comment tu dois pitcher, comment tu traites telle objection, c'est quoi ta manière de rentrer, est-ce que c'est top-down, bottom-up, à qui tu t'adresses et autres. C'est plutôt vraiment, voilà, j'ai un playbook qui est clair, comment est-ce que je fais pour être le meilleur à l'appliquer, comment est-ce que je me l'approprie, comment est-ce que je vais vraiment dans la finesse de la compréhension de mes prospects, toutes ces choses-là. Voilà, ça, quand tu es sales chez Aircall, il faut que tu sois vraiment expert de ton cycle de vente. Et d'ailleurs, quand tu arrives ici, presque on te demande de désapprendre des choses que tu maîtrisais en tant que commercial, tu vois, et de pas présumer que tu sais quelque chose sur ton pipeline, que tu sais sur la manière de générer ton pipeline, sur la manière dont tu vas designer un cycle de vente, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant parce que, tu vois, il faut un peu désapprendre des choses pour absolument arriver avec le plus d'objectivité possible, c'est-à-dire comment je suis capable de vendre le plus rapidement possible à quelqu'un qui a validé qu'il avait un pain point que je pouvais adresser.
Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de vitesse d'exécution et de la qualité d'entrepreneur, bien que, tu vois, Airbnb a mis longtemps avant de faire du CA, mais c'est vrai que c'est un sujet de dire à quel point ta boîte va réussir à vendre rapidement sans forcément déjà avoir le produit. Et ça, c'est, on a énormément, comme tu l'as dit, de contenu dans les livres, les podcasts, etc., où on te dit tout le temps « vends avant de construire ton produit ». Mais ouais, tu vois, enfin moi, je coach des startups, je le vois tous les jours. Et en ce moment, en France, tu as « Qui veut être mon associé à la télé ?»
Ouais.
Tu vois toujours, tout le temps, les mecs qui ont construit un produit, qui ont passé des années dessus, etc., mais qui ne font pas de chiffre d'affaires. Et du coup, on oublie toujours qu'en fait, à la fin de la fin, c'est ton produit doit se vendre, quoi. Et c'est limite la première chose à faire avant de faire tout le reste.
Complètement. Et tu vois, YC, parfois tu leur dis, tu reviens, tu te dis, ah c'est bon, j'ai lancé tel client en pilote, etc. Ils payent ? Ils te disent, ils payent ? Non ? Bon, bah, c'est pas un pilote dans ce cas.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Donc, ouais, là-dessus, super aligné. Et tu vois, bon, les grands principes de YC, les gens le connaissent, c'est assez connu dans notre écosystème, mais tu vois, faire des choses qui ne scalent pas pour trouver un pattern, notamment dans la génération de pipeline. Enfin, dans plein de choses, tu vois. Dans le closing, dans tout ce que tu veux. Encore une fois, si je fais le parallèle avec un AE.
Attention, Dan, tu vas faire des accélérations qui vont peut-être perdre les auditeurs. N'hésite pas à le traduire. Peut-être les auditeurs ne savent pas ce que c'est l'AE ou le.
Oui, ou pardon. Un sales, un commercial dans une boîte de logiciels beaucoup plus établie, qui a déjà trouvé son marché, etc., et à qui on va demander, quand on parle de scale, donc de faire passer le process à l'échelle, de faire quelque chose qui est justement très répétable, qu'on va pouvoir prévoir, qui ne va pas être dépendant de l'énergie dépensée par un humain, en tout cas. Ça, c'est le critère. Et la beauté du SaaS, c'est son côté prédictible, répétable, avec une prévision très fine, etc. Et là, on te dit de faire tout l'inverse. Tant que tu n'as pas ce product market fit. On te dit de faire tes emails à la main, on te dit d'aller frapper à la porte du prospect que tu veux, on te dit d'aller chercher l'introduction, même à trois niveaux s'il faut. On te dit d'essayer plein de choses que tu ne ferais pas dans un cadre de vente, dans un cycle de vente huilé.
Ouais, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous trouvez non pas le hack pour accélérer les choses, mais comme tu l'as dit, trouver un pattern ou la chose qui va faire que le marché répond. Et en fait, le fait de faire les choses à la main, ça te permet à un moment donné d'analyser, ah oui, ça a l'air de marcher. Et du coup, après, on va pouvoir l'automatiser, le dupliquer. Mais avant ça, il faut d'abord, comme tu l'as dit, parler aux clients, écrire des mails pour itérer, en fait.
Oui, tu vois, on a monté un SaaS dans la sales tech. Je suis absolument fan de tous les outils qu'on peut utiliser, que j'ai utilisé, qu'on continuera d'utiliser et autres. Mais là, pendant 3 mois, on a arrêté d'envoyer des mails automatisés, on a arrêté d'utiliser des séquences de mails. On se pose avant chaque prospect et on se dit...
pourquoi ça pourrait être mon client idéal, quoi.
Ouais, pourquoi est-ce que ça pourrait être mon client idéal? Et comment est-ce que je peux m'adresser à lui en lui montrant que j'ai pris le temps de travailler? Alors évidemment, tu aurais plein de petits hacks pour l'automatiser. Aujourd'hui, tu peux leverager l'IA, faire plein de choses qui feraient que ça pourrait paraître personnalisé. Mais là, je me pose la question, comment est-ce que cette personne recevrait un mail d'un copain qu'il n'a pas vu depuis 10 ans parce que ce mail-là, il l'ouvrirait, quoi qu'il arrive. Comment est-ce que ce que je vais lui dire, ça va sonner avec le même ton? Et ça va résonner. Comment est-ce que je vais lui demander de me faire quelque chose de très précis, qui soit un call to action très simple? Et tout ça, ça fait du bien de se re... de... Ouais, c'est un très très bon exercice de vente, d'absolument faire table rase des différentes stratégies, techniques, méthodes de vente, tu vois. Alors, on est dans les héros de la vente. On peut parler de techniques de closing, on peut parler des techniques de lead gen, du médic, de tout ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, on présume qu'on ne sait rien et on va le réapprendre sur le marché.
Ok, bah ça, c'est un bon retour d'expérience. Et c'est vrai que des fois, trop d'outils tue l'outil. Il faut revenir un peu aux fondamentaux et puis se poser, prendre quelques clients qui sont, à ton avis, dans ta cible idéale et puis réfléchir à... Tu l'as dit, souvent, on envoie des mails, on pense que le mail est bon. Et en fait, si tu te poses vraiment et tu lis ton message, il n'est pas si bon que ça.
Ouais, je pense qu'on a tous développé un petit pattern dans l'œil quand on ouvre un email. En moins d'une seconde, on est capable de savoir.
De savoir que c'est trop sales, trop commercial, que c'est pas intéressant, ouais. Que c'est du déjà vu, que c'est du copier-coller. Et très bon retour d'expérience. Si tu veux, Dan, on peut passer justement aux spécificités de ce marché américain.
Ouais.
Donc là, tu as des commerciaux, j'imagine, en tout cas des équipes qui prennent des rendez-vous avec des Américains. Oui. Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils ont été un peu surpris de la manière de faire du business des Américains? Est-ce qu'ils ont dû s'adapter? Est-ce que vous voyez des choses quand même qui sont différentes, j'imagine, de quand on fait de la vente en France?
Oui, alors j'apporte un petit disclaimer. On a signé nos premiers clients aux États-Unis, mais on est loin d'avoir l'ambition de dire qu'on a craqué la manière de vendre aux États-Unis. On est en train de le vivre, on est en train de l'expérimenter, donc si ça peut aider, tant mieux. On est trois à vendre aujourd'hui. On concentre effectivement une bonne partie de notre énergie sur ce marché-là. La première chose qu'on a ressentie, qui nous a marqué, c'est l'ouverture à essayer de faire des choses. Tu vois, tu peux parler à une petite boîte en France qui aura beau être relativement... conscient du problème, conscient de la solution, mais qui mettra en pause le sujet parce qu'il a des priorités, etc., avant d'avancer. Là, on se rend compte assez rapidement, alors ce n'est pas facile d'y rentrer, par contre, déjà, les fondateurs de boîtes de plusieurs centaines d'employés, on a haussé un petit peu notre niveau donc de boîte. Aujourd'hui, on adresse plutôt des boîtes de 100 à 2000 employés. Avant, on s'adressait à des boîtes un peu plus petites. Déjà, les fondateurs ou les top C-level exécutifs de ces boîtes-là répondent aux mails. Okay. Répondent aux mails et sont partants pour essayer des choses. Et en fait, c'est une différence, ça peut paraître bête, hein, mais c'est une différence significative, c'est « je suis prêt à te laisser ta chance si tu adresses le problème clairement, simplement, et que c'est un problème qui me fait mal en ce moment ». Et donc, ce qui se passe, c'est que le CRO d'une boîte américaine va dire « ok, très bien, intéressant ». Faisons un meeting, ok, bah, au bout de 30 minutes, très bien, tu as répondu à mes questions, je vais missionner machin qui va gérer ce projet-là avec toi, dans deux semaines, on se dit si oui ou non, ça vaut le coup d'y passer du temps ou pas. Et tu vois, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, parce que les exigences sont... Tu vois, quand tu vends un produit tech, etc., il y a des choses qui peuvent te paraître de super features en Europe qui sont complètement des commodités ici. Donc, tu as un peu un niveau d'exigence sur le SaaS. Ils savent acheter du SaaS, ils aiment acheter du SaaS. Tu as un niveau d'exigence sur le SaaS qui est élevé. Donc, ce n'est pas plus facile. Mais en tout cas, il y a un alignement. Et nous, on a la chance, ce n'est pas donné à tout le monde, de vendre à des commerciaux. On a la possibilité de se parler les yeux dans les yeux avec un VP Sales. Est-ce que ton équipe va y passer du temps? Est-ce que je vais y passer du temps? À quelle échéance? À se poser des questions de découverte beaucoup plus décomplexées. Et ça, je pensais, tu vois, ça, on le fait en France depuis le début de l'aventure ou même avant chez Aircall. Ça, c'est quelque chose avec les Américains qui est beaucoup plus clair. Les questions sont beaucoup plus directes, les réponses sont beaucoup plus honnêtes, transparentes, et donc tu es capable de prendre le pouls d'un deal beaucoup plus facilement que ce que tu le ferais en Europe.
Alors c'est vrai que j'avais interviewé, peut-être que tu connais Caroline Wusen-Franxia, qui connaît bien ce marché des américains et qui me disait, en fait, pour beaucoup de boîtes tech françaises, donc par exemple la tienne, c'est une bonne chose d'aller se confronter au marché américain parce que comme c'est des yes men, comme tu l'as dit, ils peuvent tester très vite ton produit. Et le marché français, mine de rien, il est très compliqué. Et c'est très compliqué à vendre sur le marché français de la tech, du logiciel, du SaaS. Et des fois, on a peur d'aller sur le marché américain parce qu'on se dit, je suis français, mon marché est local, etc. Alors qu'en fait, on serait surpris finalement de la difficulté que c'est en France de vendre, par exemple. Alors, tu as parlé des petites boîtes, mais on n'a pas parlé des grands groupes, par exemple. En France, c'est quand même costaud hein, de pouvoir vendre un logiciel à un grand groupe français.
Ouais, complètement, complètement. Mais je pense que c'est un... Je pense que c'est un bon learning. Mais après, ça dépend de la spécificité du marché, du produit. Nous, dans notre cas, le marché a une meilleure maturité sur des sujets de sales enablement. Sont déjà évangélisés à la fois sur la profondeur du problème et aussi sur le type de solution qui existe. Donc pour nous, ça faisait vraiment sens. Peut-être que pour d'autres boîtes, ça le fait moins. Mais en tout cas, ouais, je suis assez aligné sur le côté yes man.
Ouais. Et par contre, si ça ne fonctionne pas, c'est très vite, c'est fini. C'est le pilote, comme tu dis, ça s'arrête, quoi.
Ouais. Mais du coup, quand tu as aussi la possibilité, un peu de flexibilité dans les types de contrats que tu vas lancer, bah, ça peut se lancer très vite. Et effectivement, ça peut s'arrêter aussi très vite. Mais c'est le jeu, du coup. Le produit est beaucoup plus valorisé. L'accompagnement aussi que tu vas faire après l'achat est très valorisé aussi. L'aventure. Et puis, les gens sont beaucoup plus sensibles au fait d'acheter à une start-up. Et ils voient ça plutôt d'un bon angle, d'ailleurs. Ils le capent tout de suite qu'ils auront peut-être la capacité d'influer la roadmap sur un produit, d'avoir des gens qui vont être réactifs, etc. C'est limite, tu sens un peu d'excitation chez quelqu'un qui vient acheter ton produit, même si moi je suis absolument fan de beaucoup de géants du logiciel. Faut avouer que c'est relativement ennuyeux d'acheter de vivre une expérience d'achat chez un gros acteur du logiciel. Donc il y a aussi ça, ils apprécient acheter aux startups.
Ok, et est-ce que quand tu prospectes, tu montres un peu la carte YC? Et que c'est justement une bonne carte de visite ou ça, tu l'utilises pas trop?
Ouais, carrément. Ah non, à 100%. Sans le crier sur tous les toits, sans en faire des caisses, parce que ça veut rien dire. Mais si c'est une porte, si ça peut nous aider à ouvrir des portes, surtout parce que ouais, ici, c'est avant tout une grosse communauté d'alumni, etc. On s'en sert et ça marche plutôt bien, ouais.
Je sais que, alors je ne sais pas s'ils le font toujours, mais les boîtes en France du studio eFounders, quand ils lancent une boîte, un produit, ils n'hésitent pas à contacter les personas, donc les cibles idéales, et à dire, voilà, on lance la boîte eFounders, ça m'intéressait d'avoir ton avis. Et je trouvais que, bon, en tout cas dans notre milieu des startups, etc., comme ça a une belle image de marque, forcément, tu as très vite 100 testeurs, bêta-testeurs, qui peuvent être tes premiers clients. Donc, j'imagine que tu peux avoir la même stratégie avec l'accélérateur Y Combinator.
Non, 100%. 100%.
OK. Et en termes de... Est-ce que sur la spécificité du marché américain, est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Peut-être un état d'esprit à adopter quand tu t'adresses aux Américains? Est-ce que, par exemple, vous sentez des choses au niveau de la barrière de la langue ou finalement, ça se passe bien?
Écoute, tu vois, t'as, en tant qu'entrepreneur français ou commercial français arrivé aux États-Unis, tu as forcément ce petit syndrome de l'imposteur. C'est le pays de la vente, ils sont excellents à ça. Et tu vois, t'as beau chez Y Combinator, t'as beau avoir un fondateur technique un peu geek, quand il prend le micro pour s'exprimer et pitcher sa boîte, il sait le faire. Il y a ce petit syndrome de l'imposteur de pourquoi moi, est-ce qu'il me ferait confiance. Je pense que rapidement, cette barrière tombe quand tu vois que déjà, il y a absolument toutes les nationalités des gens qui vendent aux États-Unis.
Oui, c'est vrai.
Les Américains, quand ils sentent que tu as un petit accent ou quoi que ce soit, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ne le prennent pas si mal. Au contraire, ils se disent, tiens, c'est quelqu'un qui est étranger, entre guillemets, mais du coup qui fait l'effort de parler dans une autre langue. Je sais pas, tu sais, il y a un truc tout bête qu'on m'a dit, mais c'est quand tu es en France et qu'il y a un Anglais ou un Espagnol ou quoi que ce soit qui vient, qui te parle en français, mais avec un fort accent, est-ce que tu te fous de sa gueule ? Est-ce que tu te moques de lui ou quoi que ce soit ? Au contraire, tu te dis, waouh, il parle peut-être pas le français le plus parfait, mais il me parle en français en tout cas. C'est peut-être pas la même chose parce que l'anglais est beaucoup plus universel, mais non, moi perso je l'ai pas encore trop senti. Je dirais qu'il faut faire tomber un peu ses barrières, y aller à l'audace, être sûr de son produit, être sûr de soi. Et tu vois, quand YC te dit ton produit c'est la clé, faire un produit que les gens veulent vraiment, si c'est le cas, ça le fera quoi.
Ok. Et on a parlé un petit peu, tu vas nous expliquer ce que c'est, parce qu'il y a des auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est. Tu nous as dit que ton produit, c'était un produit de sales enablement, qu'aux États-Unis, c'était un marché mature, le sales enablement. Moi, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé dans le podcast il y a 2 ans. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus trop sur le marché français, alors qu'on aurait pu penser que ça allait être la vague sales enablement en France, mais ça, c'est un peu... assez. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision là-dessus, tout en essayant de peut-être de, c'est pas évident, mais de d'expliquer ce qu'il y a derrière ces deux mots pour les auditeurs qui voient pas du tout ce que c'est le sales enablement.
Ouais, bon, le sales enablement, littéralement, c'est de donner les moyens aux commerciaux de me vendre. Mais donc, ceci étant dit,
comment tu fais pour les aider
Ouais, il y a eu une professionnalisation de cette approche, évidemment d'abord aux États-Unis, avec la création de la fonction du métier de Sales Enablement Manager, qui sont donc des équipes qui sont là pour soutenir les équipes commerciales en leur donnant tous les moyens pour faire en sorte qu'ils performent bien. Les moyens, ça peut être des moyens techniques, en l'occurrence des outils, du contenu, ou des moyens humains avec de la formation,
du coaching,
etc. Ouais. Donc, si tu veux, c'est rien de nouveau. Hein. On a appelé ça Sales Enablement, mais des formateurs commerciaux, ça existe depuis que le métier de commercial existe. Donc, c'est juste qu'ils ont professionnalisé l'approche et qu'aux États-Unis, c'est effectivement, dès que tu dépasses 5-6 commerciaux, tu te dis, je vais prendre un Sales Enablement Manager. En France, c'est effectivement arrivé il y a quelques années, ce phénomène, le fait d'aller... donc créer ces fonctions dans les boîtes. Et il y a des outils qui se sont aussi lancés dans cet écosystème qui a fait beaucoup de bien. Des outils de, par exemple, tu connais bien le sujet, d'enregistrement d'appels, de réécoute pour faire du coaching. Des outils de gestion de contenu pour mettre à disposition des librairies de contenu aux commerciaux pour qu'ils puissent partager leur tous les collatérales, quoi, les decks, les vidéos, les customer stories, toutes ces choses-là. Donc ça a fait beaucoup de bien, ça a professionnalisé l'approche. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est très répandu, c'est très commun, c'est un des outils, un des premiers outils achetés après le CRM. Nous, notre point, effectivement, on arrive sur ce marché avec une approche un petit peu différente. jusqu'à présent, c'était beaucoup le sales enablement qui travaillait donc avec des équipes marketing, product marketing, sur l'enablement interne entre le marketing et le commercial. Comment je donne les moyens du coup au commercial de mieux vendre. Nous, notre approche, c'est de dire qu'il faut donner les moyens au commercial de bien collaborer avec son prospect, d'être beaucoup plus centré sur l'acheteur, et que dans ce canal de collaboration entre le commercial et son acheteur, c'est ici que le marketing et l'enablement doit servir, doit adresser, servir au mieux le commercial pour que ce soit l'acheteur qui soit au centre du sujet. Donc c'est un peu cette nouvelle vague du sales enablement. Alors les digital sales rooms qu'on fait, effectivement, ça y contribue pas mal, mais il y a d'autres initiatives beaucoup plus buyer-centriques où on se dit tout le monde doit travailler sur l'acheteur, et l'alignement interne sales et marketing, ça nous a parfois un petit peu dévié, ça a parfois fait que l'adoption a été un peu moins bonne aussi de ce genre d'outils, parce que le cœur du sujet et le cœur d'une vente, c'est rendre l'expérience d'achat plus simple pour le prospect, lui rendre son oui plus simple. Tu vois, les Américains, ils disent ça, c'est comment est-ce que je fais en sorte que comment est-ce que je rends plus facile à mon prospect de dire oui. Et c'est différent de dire comment je rends mon commercial meilleur. C'est très fin comme différence, mais c'en est une, tu vois. C'est comment est-ce que je fais un meilleur cycle de vente, ou comment est-ce que je rends une expérience d'achat plus simple, plus fluide. C'est encore une fois, la différence est fine, mais dans l'approche, dans la manière de le formuler, ça veut dire beaucoup.
Oui, et du coup, ils appellent ça maintenant le buyer enablement, j'imagine.
Buyer enablement, ouais, exactement. Ouais.
Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que là, c'est pareil, tu crées une boîte souvent, tu mets un business model tu t'es inspiré d'une autre boîte, et en fait, tu réfléchis pas tant que ça au parcours client. Et souvent, comme tu l'as dit, quand tu écoutes tes clients, etc., tu as plein d'objections, en fait, dans ton prix, la manière d'acheter, la manière de faire les rendez-vous. Tu vois, à un moment donné, il y avait un courant dans les boîtes tech où je me souvenais, les mecs voulaient absolument te faire 3-4 rendez-vous, te faire un rendez-vous découvert, te faire un autre rendez-vous avec une autre personne. Et en fait, toi, tu es là, tu es le prospect, tu t'es trimballé entre rendez-vous. Finalement, t'as juste envie d'avoir une petite démo, limite, tout seul, d'avoir un seul rendez-vous, d'avoir les prix. Et on a eu tendance à multiplier les interlocuteurs, multiplier les rendez-vous, faire des business models complexes. Et on oublie qu'au bout du bout, ça devient compliqué pour le prospect, finalement, d'acheter une solution.
Complètement. On pourra mettre dans l'annexe du podcast une petite infographie qui était sortie par Gartner sur la réalité du parcours d'achat en B2B. En tant que commercial, on le formalise avec nos étapes du CRM, tu vois. Mais encore une fois, c'est très seller-centrique comme approche de penser le cycle de vente et pas le cycle d'achat. L'étape 1, la découverte, la démo, la négociation, toutes ces choses-là. La réalité, c'est qu'entre toutes ces étapes, il se passe des dizaines de micro-événements que sur lesquels jusqu'à présent on était aveugle parce qu'on ignorait un peu le comportement de l'acheteur. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est aussi cette nouvelle vague de vente un peu asynchrone, de se dire que si ton prospect, c'est lui un peu que tu as envie de placer au cœur de l'expérience, comment est-ce que je lui rends l'expérience plus facile? Comment est-ce que j'anime ces temps morts entre les meetings? On va se parler aujourd'hui, la next step, ce sera peut-être dans 2 semaines, mais comment est-ce que raisonnablement, je pense que pendant ces 2 semaines, il ne va rien se passer dans la tête de mon acheteur. Il va avoir des discussions au café, il va avoir des informations sur les réseaux sociaux, il va lire des choses, écouter des podcasts, toutes ces choses-là qui vont faire évoluer sa réflexion. Il va certainement avoir des questions sur le prix, sur la solution, sur plein de choses-là. Comment est-ce que raisonnablement, quand en plus on est habitué en B2C à avoir tout instantanément, on est capable de tolérer que je vais attendre le call suivant pour avoir les réponses à mes questions. Une fois que je vais avoir les réponses à mes questions, je vais du coup pouvoir les digérer, les partager en interne et revenir. Là, en termes d'efficacité commerciale, on est loin du compte. Moi, je, dans notre cycle de vente, on a la chance d'utiliser notre propre outil pour le vendre, mais avant chaque call, on va partager un espace topo dans lequel le prospect va presque avoir toutes les informations claires, essentielles dans sa prise de décision. Et le moment du call, c'est juste des discussions liées à ces informations. Donc ouais, c'est un changement de paradigme qui est plutôt très bien reçu ici aux États-Unis et qui viendra clairement aussi suivre en France.
Ouais, c'est une belle analogie, la belle analogie du B2C et de dire effectivement tu commandes en ligne sur un site e-commerce, le ouais. Parcours d'achat est de plus en plus simple, sexy, fait pour que tu achètes plus. Et puis en B2B, au contraire, on a complexifié beaucoup le parcours d'achat. J'ai l'impression, notamment avec les licenciements que font les GAFAM dans la tech, etc., que la spécialisation à l'extrême des tâches des commerciaux, ils sont en train de faire un peu machine arrière et que tu as moins une division, chez les sales. Ouais. Tu vois ça un peu aux États-Unis ?
Oui, après, c'est aussi une question, parce que la segmentation, tu l'avais sur qui génère du pipeline, qui close ton pipeline, qui onboard ton prospect, ton client et qui ensuite le gère. Tu vois, ça pouvait arriver d'avoir ces quatre différentes équipes, voire encore plus. Déjà, si tu te concentres juste sur le haut du funnel, ça va dépendre évidemment du segment de marché, etc. Parce que quand tu vends à des très grands comptes, tu ne génères pas du pipeline de la même manière que quand tu vends à du SMB. Mais il y a aussi ce sujet des canaux qui sont de plus en plus saturés, du pipeline qui est difficile à générer aujourd'hui. Et donc, les boîtes aux États-Unis sont conscientes de ce problème, que le pipeline est de plus en plus cher, de plus en plus dur à générer, et que donc, tu as deux choix. Soit tu double encore tes dépenses pour générer encore plus de pipeline, soit tu fais en sorte que le pipeline qui est là, je le close mieux. Idéalement, tu fais les deux. Mais la situation économique fait que tu es en train de te poser des questions que tu ne te posais pas avant, c'est-à-dire à quel point est-ce que je close rapidement, quelle est la durée moyenne de mon cycle de vente, et à quel point est-ce que j'ai un bon taux de transformation, alors que la croissance à tout prix, avant, finalement, tu pouvais closer des prospects un peu des deals un peu longs pour des paniers moyens qui n'en valaient pas trop le coup, mais on était OK avec ça parce que c'était la top line, le MRR, l'ARR qui était au-dessus de tout. L'outbound tel qu'on l'a connu marche moins. Moi, j'ai une conviction, c'est que dans quelques années, on parlera plus d'outbound, d'inbound, des différents lead sources, mais que tout le monde devra travailler sur un seul lead source et que, encore une fois, c'est beaucoup plus buyer-centrique de penser qu'il n'y a pas d'outbound ou d'inbound parce que finalement, les démarches de marketing, de growth, d'outbound, de marque, de tout ce que tu veux, on parle tous à la même personne, quoi. Donc moi je suis convaincu que sur ces sujets-là, il va y avoir aussi un changement de paradigme. Mais donc, ouais, pour répondre à ta question, moi je suis assez fan quand même d'avoir une grosse expertise sur ton sujet. Mais oui, c'est des questions vraiment récurrentes sur la spécialisation, sur la segmentation du cycle de vente qu'on entend de plus en plus et qu'on n'entendait pas avant parce que c'était aussi les gros éditeurs de logiciels qui dictaient la manière dont on devait vendre dans nos boîtes, quoi.
Oui, et puis il y avait plus de cash, donc tu pouvais plus te permettre d'avoir une équipe avec plein de commerciaux avec des tâches différentes. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Écoute Dan, on a fait un bon petit tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces sujets avant qu'on passe aux dernières questions ?
Non, écoute, je pourrais en parler des heures. C'est des sujets qui me passionnent. Si ça a pu aider certaines personnes humblement, j'en suis très heureux. Et si ça intéresse aussi certaines personnes qu'on approfondisse le sujet buyer enablement ou autre, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou par mail dan@topo.io, que ce soit pour discuter du produit ou de vente, je suis toujours partant.
Ok, bah écoute, ça c'était ma dernière question, mais tu as répondu. J'en ai quand même quelques-unes pour toi en mode ping-pong pour que on fasse un chassé-croisé. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps dans ton aventure entrepreneuriale et que je devrais éviter?
C'est une bonne question. Bah, je pense que tu l'as dit, c'est un sujet qu'on a évoqué au début et qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire dans sa propre boîte, c'est de passer du temps à développer son produit et de penser qu'il est jamais, et penser qu'il est pas assez bien pour le lancer. Et que tu vois, quand tu te rends compte, pourquoi est-ce qu'on se dit ça? Parce qu'on a peur qu'on aille voir un client qui est un peu notre client idéal, un prospect qui est un peu notre client idéal et que du coup ils nous disent non et qu'après on puisse pas le signer. Objectivement, au vu des tailles de boîte, au vu des turnovers, au vu du marché, au vu de ce que voient les prospects toute la journée, etc., bah, il te dit non une fois, au bout de quelques mois, c'est comme si tout était reparti à zéro. Ouais. Donc oui, tu as brûlé un peu de pipeline, mais ce pipeline, il sera de nouveau vivant quelques mois plus tard. Donc ouais, je dirais, on a essayé de le faire, mais on n'avait pas encore la chance d'avoir été accompagné par YC. On l'a lancé relativement tôt, mais c'est jamais trop tôt.
Ouais, ça, c'est une belle image, ouais, effectivement. Tu as des cartouches, mais... si tu les vides, tu peux toujours recharger à un moment donné.
Ouais, ouais, bien sûr. Franchement, ouais.
On est dans l'analogie. Très bien. Est-ce que tu as un état d'esprit que tu as changé, mais que tu aurais aimé changer plus tôt?
Le focus. Vraiment. On ne peut pas être bon partout. On ne peut pas faire un produit qui est bon pour tout le monde. On ne peut pas adresser... Voilà, je réponds plus en mode sales, hein, mais on ne peut pas adresser toutes les verticales, on ne peut pas parler aussi bien à tous les personas. Et donc, ouais, je dirais choisir, même si c'est une hypothèse, hein, peut-être qu'on pourra changer, pivoter ou autre, il n'y a pas de mal à ça. Mais en tout cas, choisir, pas faire de choix, c'est déjà un très mauvais choix. Choisir et y aller à fond et se concentrer là-dessus. Et quand on aura assez de recul, au pire, on devra changer. Mais en tout cas, ouais, je dirais le focus.
Ok, choisir ses batailles et pas partir dans tous les sens.
Ouais.
Très bon conseil. En termes de compétences, est-ce qu'il y a une compétence que tu aurais aimé avoir plus tôt et est-ce qu'il y a une autre compétence que tu n'as pas aujourd'hui que tu rêverais d'avoir?
Ouais. Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup. Alors, laquelle mettre en avant? Je te dis, si je me réfère, et parce qu'en ce moment on est à fond dans le sujet OIC, il n'y a pas de prédisposition à être un bon entrepreneur. Justement, il y avait un talk de Paul Graham cette semaine où il y a quelqu'un qui posait la question, selon toi, quel est le point commun entre tous les entrepreneurs chez OIC, quelles étaient leurs qualités, et il a répondu la résilience numéro 1. Sans hésiter, le côté débrouillard, d'être en capacité de rebondir, même s'il y a des complexités, même s'il y a des galères, et l'ouverture d'esprit aussi, de se dire que même si tu es focus et que tu es dans un tunnel sur ton sujet, peut-être que tu es presque sur le bon sujet, mais que ton sujet qui va faire que ta boîte est excellente est juste à côté, et qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire que peut-être que je me suis trompé et que le sujet est un peu à côté.
C'est vrai que ça, j'imagine que le cimetière des startups est plein de projets qui, avec quelques petits changements, auraient pu cartonner. Et parce que le fondateur, tu l'as bien dit, des fois, tu as la tête dans le guidon et tu ne vois pas quelque chose qui est évident. Et ça, c'est Jean de La Roche-Brochard aussi qui dit ça souvent dans ses podcasts. Mmh. C'est que des fois, tu dis un truc aux fondateurs qui ont le sujet quotidiennement et ils ne l'ont pas vu alors que ça semble évident et ça débloque des situations ou au contraire si le fondateur n'écoute pas ou n'a pas eu l'info s'enferme dans ses préjugés ou dans le choix qu'il a fait
complètement.
D'où l'importance d'échanger un maximum avec tes pairs,
ouais.
Et d'être dans des communautés comme celle où tu es en ce moment aux États-Unis. Mmh. Ok, et tu voulais ajouter quelque chose peut-être?
Non, c'est déjà ambitieux.
Ouais, bah écoute, il me reste une question. Je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu la donnes à qui?
Je l'avais pas préparé celle-là. Je vais. Écoute, honnêtement, moi j'ai un peu changé d'avis ces dernières semaines en étant ici, enfin changé d'avis. Mais tu vois, je pense que on peut tirer beaucoup, beaucoup de leçons de. Tu vois, je suis absolument fan de vente, absolument fan de technique des plus grands vendeurs dans les éditeurs de logiciels qui ont créé des machines de vente absolument fabuleuses. Et je pense qu'il faut les écouter pour s'enrichir. Mais je pense que justement, l'entrepreneur early stage qui est en train de tester plein de choses, des techniques de vente qui marchent, qui ne marchent pas, c'est aussi certainement le meilleur vendeur, le fondateur. Et donc, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire exactement qui l'a interviewé. Tu l'as déjà interviewé à l'époque de la mafia d'Aircall, mais pareil, il y a eu beaucoup d'avancements chez eux et ça marche bien pour eux. Si tu pouvais, je pense, reparler avec Shalom de Site,
Ouais.
ils ont un an après fait quelque chose d'assez fort. Donc, pour le coup, en termes de sujet vente, tu auras aussi affaire à un grand, grand passionné. Et sinon, bah, ça pourrait être intéressant de te présenter à d'autres fondateurs français qui font le badge de Y Combinator en ce moment, qui sont sensibles avec des sujets de vente, parce que je pense que tout le monde en sortirait assez grandi d'avoir ce paradigme de la vente early stage et de tirer des enseignements aussi pour la vente dans une boîte beaucoup plus établie.
Ok, écoute, bah, hyper intéressant. Si tu as des contacts, je suis preneur. Dan, merci beaucoup pour cet épisode. Tu as donné tes coordonnées, donc vous pouvez joindre Dan sur LinkedIn.
Ouais.
Et bien sûr, tester topo.io. Hein. J'imagine vous êtes là pour ça.
Complètement. Si le sujet de la Digital Sales Room pour rendre votre expérience d'achat plus simple, pour closer plus vite et pour donner à vos commerciaux justement tous les outils en termes de contenu pour enabler leurs acheteurs, ça vous parle. Dan@topo.io, je serais très content de faire un petit appel avec vous pour qu'on en discute.
Allez, super Dan. Bah écoute, passe un bon vendredi, un bon week-end, et puis à très bientôt alors.
Merci Alex, à très vite.
À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesherodelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous!